Chapitre 4. J'avais 12 ans quand mon père s'est subitement pris de passion pour les Indiens. Ma mère venait de partir en emportant la moitié des meubles et de son cœur, et peu à peu, des guerriers coiffés de plumes ont rempli tous ces vides. Il y en avait partout. Des statuettes en plâtre sur les étagères, des posters, des cadres et des drapeaux sur les murs, des cassettes de musique tribale près du poste. La maison ressemblait davantage à un musée qu'à un foyer. Mais cela ne me gênait pas. Jusqu'au jour où deux copines du collège, venues passer l'après-midi chez nous, se sont moquées. Je n'ai jamais plus invité personne. Un week-end où ma sœur et moi étions chez lui, il nous a annoncé qu'il allait se faire tatouer une tête de chef Sioux sur le biceps. Habitués à ses loufoqueries, nous avons approuvé l'idée avec enthousiasme. Le tatoueur officiait au sous-sol de sa boutique. Il y faisait sombre, et l'air était chargé de nicotine. Pourtant, en pénétrant ce lieu réservé aux grands, j'avais le sentiment de vivre une expérience importante. Je me rappelle le bruit de la machine qui m'évoquait celle du dentiste et l'attitude décontractée de mon père qui enchaînait les blagues en guettant nos rires. Avec ma sœur, on était impressionnés, tant par le dessin qui prenait forme sous nos yeux que par le courage paternel.
« Ça va, pas trop mal ?»
lui demandait régulièrement le tatoueur.
« Tu rigoles, tu me chatouilles !»
répondait invariablement le valeureux guerrier. De retour dans le monde extérieur, il s'est tenu le biceps tout au long du chemin vers la voiture.
« Le pansement se décolle ?»
l'a interrogé ma sœur.
« Non, ça fait 2 heures que je souffre le martyr. Je crois que mon bras va finir par tomber. »
Autant dire que le valeureux guerrier a passé des semaines à essuyer les moqueries de ses filles. Le chef Sioux a depuis été rejoint par toute une tribu, et la maison n'a cessé de se remplir. C'est commode pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël. N'importe quel objet à l'effigie d'un Indien le ravit. Toute autre tentative ne peut que le décevoir. Aussi, quand ce soir, au beau milieu du dîner, il m'annonce l'idée qu'il vient d'avoir, je ne devrais pas m'en étonner.
Je vais monter un tipi dans le jardin.
Quel jardin ? S'étrangle Gaëtan. Charlie applaudit.
Oh oui, un tipi !
Ici,
répond stoïquement mon père.
J'ai mesuré, il y a la place entre la barrière et la terrasse. Bon, ça recouvrira un peu le potager, mais en cette saison, vous ne vous en servez pas vraiment. J'en ai toujours rêvé, mais chez moi ça rentrait pas. J'en veux un assez grand, comme ça je pourrais dormir dedans avec Géronimo.
Gaëtan a cessé de mâcher, de bouger, peut-être même de vivre. Son regard figé est planté dans le mien. Le message est clair, je dois intervenir.
Papa, tu peux pas installer une tente dans le jardin?
Il lève les sourcils.
Et pourquoi pas?
Allez, maman!
S'exclame Charlie en venant se pendre à mon cou.
S'il te plaît, dis oui!
Je me lève d'un bond, me dégageant de l'emprise de mon fils, et j'entreprends de débarrasser la table. Ça ne se fait pas, c'est tout. Mon père ricane.
On dirait ta mère, toujours à te soucier de ce qui se fait ou pas. On s'en fout de ce que les autres pensent. Tout ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Je suis sûre que mon gendre est d'accord avec moi, hein, Gaëtan? Ce serait sympa un tipi dans le jardin, pas vrai?
Je suspends mon geste, une assiette dans la main, pour guetter la réaction de mon mari. Il prend le temps de boire une gorgée, puis de s'essuyer la bouche, et finit par déclarer
« Oh, moi, je n'ai pas vraiment d'avis, mais si Juliane refuse, je préfère ne pas la contrarier.